pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Vincent Mahé.
Andy Emler, bonjour.
Hello.
Tu as la réputation d'être quelqu'un qui est toujours très 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 effervescent, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de choses sur le feu. Tu peux nous dire un petit peu tout ce qui va t'arriver au mois de mars?
Oh là là, oui. Bon, il faut signaler que c'est assez rare dans la profession de faire un mois comme je vais le faire là, parce qu'on est sur à la fois un concours de circonstances qui a réuni plusieurs créations et plusieurs projets différents qui se sont tous groupés dans ces mêmes périodes. À commencer par une création en trio, avec Claude Chamichon à la contrebasse et Eric Champard à la batterie. Ça s'appelle Useful Report, un rapport incontournable, quoi. Où on parle un petit peu de constat des comportements humains, de cette régression d'un demi-siècle qu'on fait dans notre pays et pas que dans notre pays. Et on a raconté ça un petit peu en musique avec un peu plus d'écriture que d'habitude, donc peut-être un peu moins d'improvisation, mais en même temps, c'est extrêmement physique et c'est un voyage qu'on va faire à la Fonderie le 6 mars. Et ensuite, on va enchaîner direct un concerto pour trio et orchestre symphonique qui fut créé par Jean-Claude Casadesus et l'Orchestre de Lille en juin 2015, si je me souviens bien, où là où il y a aussi un répertoire assez physique, où là on est avec un orchestre classique de 60 à 80 musiciens, et où le trio à la fois improvise et joue de l'écriture, et on enchaîne directement ça juste après le concert du trio, pour se retrouver à Paris ensuite, pour enchaîner deux créations. Une qu'on a déjà faite avec le Méga Octet et ses 30 ans d'existence, qu'on fête justement avec les invités, avec Nguyen Le à la guitare, et une invitée surprise qui est Géraldine Laurent au saxophone. C'est le Méga Octet.
C'est le 14.
C'est le 14 mars.
Le 14 au Panpiper à Paris.
Parce que la veille,
le 13,
on fait
tu
aussi,
y seras aussi au Panpiper.
Au même endroit, au Panpiper à Paris, avec Claude Chamichon à la contrebasse, Laurent Dehors aux clarinettes et à la cornemuse, et François Verly au tabla et aux percussions, et cinq chanteurs corses polyphoniques qui s'appellent Affiletta, qui sont des gens qui font beaucoup d'expérience hors polyphonie corse et qui avec qui j'ai sympathisé, avec qui j'ai eu envie d'écrire un projet, et je les ai un peu emmenés ailleurs que dans leurs habitudes, et voilà, c'est un challenge intéressant qu'on fait donc le 13 au soir ça au Panpiper.
Ça fait un sérieux programme, et il faut compléter ce programme avec, je crois, des rendez-vous au Détour de Babel et au Festival de Voiron, où tu vas jouer en duo.
Absolument, il y a aussi, donc dans la deuxième quinzaine maintenant qu'on attaque, de mars, on va se retrouver, j'aurais pris une année de plus d'ailleurs à ce moment-là, on va se retrouver avec, thank you, avec le Méga Octet au Théâtre du Gymnase le 17 mars, avec Médéric Collignon.
Théâtre du Gymnase à Marseille, oui.
À Marseille, pardon, à Marseille, ouais. Oui. Nguyen Le, Méga Octet et Médéric Collignon, voix et cornet. Et ensuite une création avec, au Festival de Voiron Jazz, où on va créer un programme nouveau pour orgue d'église, grandes orgues et voix, avec la splendide et talentueuse, géniale Élise Caron. Et on refera au détour de Babel le 31 mars, et ce 31 mars est un jour spécial, puisque le midi on fera cette création avec Élise Caron, l'après-midi et le soir on fera une création pour près de 150 musiciens qui mélangent orchestre à cordes, big band de jazz, musiciens de rock, chorale, il y a même un gamelan baliné, et c'est une pièce qu'ils m'ont demandé d'écrire pour le conservatoire de Voiron, et on fera le méga octet en fin de soirée ce jour-là. Donc trois concerts dans la même journée.
Finalement, Andy, c'est à ton image, ce mois de mars, tu es un véritable boulimique de musique. Aujourd'hui, après tout, déjà tellement d'années, tellement de projets, tellement de... C'est quoi ton moteur principal pour être toujours dans l'action comme ça et dans cette boulimie?
C'est... En fait, j'aime pas trop le mot de boulimie, si je puis me permettre, parce que c'est vrai. C'est vrai qu'on est actif, on a envie d'être vivant. Je veux dire, moi, je peux vivre sur la quiche, je suis triste. Si je refais les mêmes choses, là, je réécris pour le méga octet, et je me dis, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ces musiciens-là, qu'est-ce qu'ils aiment? Où est-ce qu'on peut emmener cet orchestre aujourd'hui, après 30 ans? Il faut que je cherche une musique. Donc, c'est un challenge que tu t'imposes. Et tu t'imposes ce challenge en prenant rendez-vous pour une production, pour un enregistrement ou pour un concert. Là, c'est décembre prochain. Donc j'ai jusqu'à décembre prochain, les dates sont fixées. Donc je n'ai pas le choix de me dire, je ne peux plus le faire, il faut que je trouve quelque chose. Donc c'est plutôt souvent passe-commande aux musiciens, où les compositeurs écrivent leur musique parce qu'ils ont des idées, ils ont le temps de le faire. Moi j'aime bien m'imposer un délai en me disant, voilà, il faut que je trouve quelque chose. Je suis allé voir une comédie musicale l'autre jour, Funny Girl, qui était un grand classique que Barbara Streisand avait créé dans les années 60, et ça m'a donné envie de me dire, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, par exemple, on ferait avec un outil pareil, une dramédie musicale, une comédie musicale? Les Français en font très bien, je trouve que leur musique ne me plaît pas, ne m'émeut absolument pas, je la trouve extrêmement médiocre. Je me dis, avec cet outil spectaculaire, qu'est-ce que nous, on peut faire, en reprenant quelques clichés à l'américaine qui font réagir les gens, en reprenant... En donnant le rôle à l'instrument aussi important que la voix, en disant des textes, en écrivant des textes sur qu'est-ce qu'on a à dire, etc. Donc c'est se dire, tiens, il y a un nouveau challenge à faire, et ce nouveau challenge, on va commencer à bosser dessus, puis on va faire des choses, on va faire des choses. C'est l'envie, je crois, de chercher, qui est intéressante. Le compositeur est quelqu'un qui est toujours en cherchitude, comme diraient certains néologismes connus. Mais je crois que c'est cette envie de rester vivant. Parce que dès qu'on vit sur l'acquis, on m'a demandé un jour d'aller faire une séance dans un studio pour une chanteuse de variété. J'ai passé l'après-midi sur deux accords et j'étais tellement miné, triste et sorti de là-dedans, je ne pouvais rien faire pendant deux jours. Tellement la musique, la composition était d'une médiocrité affligeante. Que voilà, je crois que nous, on est en train de digérer le XXe siècle avec le rock, le jazz, la pop, le rap, la musique classique, contemporaine, traditionnelle, tout ça. Et on touche à tout ça, et voilà quoi, on est une génération de transition qui essayons d'ouvrir des portes vers autre chose. Donc je pense que c'est important de rester actif.
Tu parles de rock, de pop, de jazz, tu t'es connu pour refuser beaucoup les étiquettes. Mmh. Tu évolues quand même dans un réseau plutôt jazz, on va dire. Pour toi, le jazz, est-ce que c'est surtout une façon de groover? Est-ce que c'est un état d'esprit général? Est-ce que tu peux quand même...
C'est les deux.
Définir quelque chose.
Oui, c'est les deux. Le jazz a amené cette extraordinaire chose qui est l'improvisation dans la musique, qu'on trouve dans des musiques traditionnelles aussi, mais que nos éducations occidentales ont oublié. Et c'est bien pour ça qu'on a du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que l'improvisation offre une liberté de choix et un choix de liberté. Les deux se travaillent. Et dans l'éducation française, en tout cas en France, on ne le pratique pas. On apprend à écrire avant d'apprendre à parler. On a eu tout faux. Donc c'est important de se dire que le jazz nous ramène un peu ça, ce que faisaient les musiciens classiques jusqu'à Mozart. Hein, faut pas aller en musique baroque, hein, chez Couperin, on voyait des variations non mesurées, on voyait des réservoirs de notes où les clavecinistes improvisaient tout le temps les accompagnements à partir de chiffrages. Tout ça s'est perdu. Les cadences de concerto étaient improvisées. Il n'y a que les organistes d'église qui n'ont jamais arrêté d'improviser parce que ça faisait partie de leur fonction. Aujourd'hui, le jazz nous a un peu ramené ça, et en même temps, cette culture de groove, cette espèce de magie, d'alchimie qui fait que quand on est bien ensemble sur une pulsation, un tempo, tout d'un coup, le son devient magique. Mmh. Le son s'élève. Et là, il n'y a aucune explication physique à ça, ni scientifique. Il y a une espèce de magie d'alchimie, d'une combinaison de rythmes et de notes et de choses qui font que quand ça tombe là, tout d'un coup, il existe quelque chose de magique dans la musique. Mmh. Les milliers de groupes de jazz nous l'ont fait entendre depuis l'histoire du jazz, de Louis Armstrong à Miles Davis, en passant par Coltrane et bien d'autres. On retrouve ça dans des grands compositeurs classiques comme Stravinsky ou Bach, cette notion de groove, où quand on est bien au fond et qu'on a écrit le bon arrangement et que ça joue bien. Voilà, j'ai un copain, Dave Liebman, saxophoniste américain, qui dit toujours « Ce qui est extraordinaire avec vous, les jazzmen, c'est que je ne comprends pas. Vous fermez les yeux, vous ne vous regardez pas, vous jouez et ça fonctionne. » Et ça, c'est une merveille que l'intellect utilise grâce à sa compétence en harmonie, en rythme et sa culture musicale. Les musiciens de jazz sont les plus compétents, sont les musiciens les plus compétents du monde, sont les moins bien payés, mais c'est les plus compétents du monde. C'est un paradoxe, hein, mais c'est la vérité. Je veux dire, un musicien de jazz, il organise ses répétitions, il monte son groupe, il écrit les arrangements, il improvise, il maîtrise monstrueusement son instrument, mais il fait de la gestion aussi, il fait plein de choses. Et puis un jour, on me demande la différence entre un musicien de jazz et un musicien classique. Je dis, un musicien classique, il joue monstrueux de son instrument. Et je m'arrête là, quoi. Ouais. Et le gars, il dit, mais tout ce que vous avez dit sur le jazz, je dis, c'est vrai, il y a aussi... il peut parler autant de musique classique. Qui j'arrête peut jouer les variations Goldberg de Bach en rappel. Je connais peu de musiciens classiques qui pourraient faire une impro là, qui j'arrête en rappel. Et pourtant, ce sont des virtuoses aussi, qui font autre chose, un respect. Mais je veux dire, ces improvisateurs sont des gens absolument géniaux.
Donc forcément, c'est quand même... Ça veut dire encore quelque chose, quoi, le jazz. Toi, ton alchimie,
ça veut dire quelque chose, parce que c'est un état d'esprit de toujours être dans la recherche et dans l'ouverture d'esprit et dans la curiosité. Voilà, ce que je reproche aux autres musiciens, c'est d'avoir perdu sa curiosité pour d'autres musiques, dont les nôtres. Mais par contre, cette étiquette nous fait du mal, parce que c'est une étiquette aussi.
Bien sûr, une étiquette dont les pionniers fondateurs ne voulaient déjà plus en 1950.
Hein, absolument.
Pour le savoir.
Mais la définition littéraire du jazz, c'est le fourre-tout, quoi. Donc on y est, quoi.
Bon, toi, tu travailles à ton alchimie, tu travailles à ton groove avec des gens auxquels tu es très fidèle. On en reparlera un peu. Moi, il y a une chose que je trouve très étonnante chez toi. Les gens qui te connaissent savent à quel point tu es une personne douce et tempérée et empathique. Et comment est-ce qu'une personnalité comme ça peut produire une musique aussi intense, parfois aussi violente, aussi animale, j'allais dire? C'est peut-être ton côté très rock, justement. C'est presque une marque de fabrique chez toi. C'est-à-dire que pour jouer dans tes groupes, il faut avoir fait du rugby avant, il faut être très, très, très en forme.
Oui,
il y a quelque chose d'extrêmement physique. Donc c'est ça ton rapport au rock, ou c'est... comment c'est possible que quelqu'un d'aussi tempéré que toi...
Ah si, j'ai une réponse. J'ai aimé ces musiques. J'ai commencé par écouter des grands groupes, des Beatles aux Stones, en passant par Led Zeppelin, les Who. J'ai aimé cette énergie du rock'n'roll, cette énergie du rock et de cette pop musique des années 70. J'ai adoré ça. Et après, j'ai découvert le jazz par des gens comme Chick Corea ou Herbie Hancock, qui faisait de la musique électrique, qui groovait, qui envoyait une puissance animale, comme tu disais tout à l'heure. Mais je crois aussi qu'on a tous à l'intérieur de soi des choses à dire, et que moi, c'est ma manière de les dire. Je suis tellement, quand je sors de la musique et que je regarde autour de moi, je suis tellement abasourdi, horrifié par les comportements, par ce qui se passe dans le monde autour de nous, que tout ce mal de vivre s'accumule quelque part et ressort dans une envie de faire du bien et de transmettre une énergie positive. Parce que la musique, ça sert à ça aussi. Et je crois que cette énergie animale dont tu parles, elle est là, elle est latente. Et quand je suis devant une partition en train d'écrire, je me dis, oh là là, là, ça va envoyer la purée. Là. J'ai envie qu'on envoie la purée. Et aussi, pourquoi ces gens ressortent de là-dedans en disant, chaque fois qu'on ressort d'un concert du Méga Octet, on est bourré d'énergie. Parce qu'on en transmet une. On en transmet à la fois par l'alchimie, l'amitié qu'il y a entre nous, mais par cette musique, qui est une musique pour transmettre l'énergie du rock'n'roll, le groove magique du jazz, l'écriture savante qu'on a dans le classique, et trouver un compromis qui fait que tout ça créer un univers qui nous est propre.
Cette écriture savante, c'est une partie de ton ADN aussi, puisque tu as fait tout le cursus et, ouais. Et les classes de composition. Tu as côtoyé des références en la matière. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que cette influence-là, disons ça, tu as travaillé sur Ravel, tu montres une certaine obsession même avec Ravel.
Parfois, oui.
Je ne t'ai pas beaucoup entendu mentionner par ailleurs les grandes figures du jazz moderne de l'après-guerre, les Duke Ellington. Est-ce que c'est aussi des gens que tu as écoutés que
oui.
T'as...
Alors, ceux-là, oui. Duke Ellington, ça a été un des premiers disques de jazz que j'ai eu. Il était en solo et j'étais renversé. Après, j'ai entendu quelques arrangements de big band. Mais j'ai jamais beaucoup écouté. Moi, j'étais beaucoup dans la musique classique et la musique pop, en fait. Je connais pas bien le jazz. On m'a mis dans une classification de jazz parce que je suis improvisateur, mais je connais pas Coltrane, je connais très peu Miles Davis, je connais très peu les musiciens de jazz. Je veux dire, je l'ai écouté comme tout le monde, si tu veux, mais... C'est pas ma tasse de thé.
On aurait envie de te croire et pourtant, en fait, tu malgré tout, ta musique trimballe tout ça aussi. Tu n'aimes pas jouer les standards, mais tu peux jouer les standards.
Je peux mal jouer les standards.
Oui.
Pour ça que j'ose pas le faire, parce que j'entends tellement de gens massacrer cette musique tout le temps, cette musique, pour refaire moins bien ceux qui l'ont bien faite il y a 80 ans. Je peux pas admettre ça. Dans les auditions des conservatoires, on voit un gamin un peu massacrer Mozart, on lui dit « t'as fait des fausses notes », mais quand les types massacrent un blues ou massacrent un standard, on leur dit rien, quoi. C'est de la musique légère. J'ai un tel respect pour cette musique que j'adore la jouer, pour le pied comme ça, dans une balance avec des copains, mais... Cette musique extrêmement difficile.
De toute façon, ce n'est pas ton propos. C'est d'avoir effectivement ta propre voix.
C'est de chercher sa voix. Moi, je n'ai pas cherché une voix.
Tout le monde sait bien que tu l'as trouvée depuis fort longtemps.
Moi, je ne cherche pas une voix. Je veux dire, je fais ce que je sais faire. Et je sais faire que ça. Et donc, après, on me dit, mais ton truc, ça fait penser à... À l'époque, j'avais un quintet avec Marc Ducré, François Chassanit, et François Verly et Philippe Tallet. On a enregistré un disque vinyle à l'époque et... Il y a un mec qui m'a dit, mais putain, c'est carrément du Miles Davis, ton truc. Et moi, je ne connaissais pas Miles Davis électrique, tu vois. Je n'avais jamais entendu. Quand j'ai entendu ce groupe de Miles Davis électrique au début des Beaches Brew, cette époque de d'après Silent Way, tout ça, j'ai découvert après. Je dis, en effet, ça pourrait être... Je crois que c'est dans l'air, quoi. C'est-à-dire que c'est... On me dit, le méga octet, c'est Frank Zappa, il y a l'humour, il y a les arrangements, il y a le machin... Moi, j'avais un pote qui était fan de Frank Zappa. Je n'étais pas branché du tout Frank Zappa, moi. J'étais branché Genesis, Led Zeppelin, et Stravinsky, et Bach, et voilà, quoi. Et Schumann, et des mecs qui me transmettaient une émotion. Frank Zappa ne me faisait pas vibrer, quoi. Oui. Et pourtant, on m'a dit, mais c'est du Frank Zappa, ton influence. Partout, depuis que je fais du jazz, on me dit que c'est Frank Zappa, mon influence. Je n'ai pas un disque de Zappa chez moi, quoi, tu vois. Si, j'en ai acheté un parce qu'on m'a commandé un projet sur Frank Zappa en hommage avec les méga octets. Donc j'ai dû écouter sérieusement et relever. Quoi, tu vois. Mais tu vois, donc je pense que c'est pas prétentieux ce que je dis, mais quand tu es libre de ton choix et que tu as envie de faire des choses sans te poser de questions, c'est vrai que pouvoir écrire de la musique, ça veut dire que tu en as écouté énormément. Beaucoup de gens qui se disent compositeurs, j'entends une émission de télévision, je vois une fille qui chante trois accords de guitare et qui parle de sa musique. Parce qu'elle a joué trois accords de guitare et qu'elle a écrit un petit texte qui ressemble au 500 millionième texte qu'on a entendu depuis 400 ans sur la chanson d'amour et qui parle de sa musique. Non, des gens comme Igor Stravinsky pouvaient parler de sa musique. Je pense que c'est pas toi qui dis « j'ai mon univers, j'ai ma musique ». C'est très prétentieux et égocentrique. C'est les autres qui vont te dire « on reconnaît quand c'est du Andy Emler, on reconnaît ton univers ». Parce que c'est eux qui entendent ça. Moi, je suis dedans depuis que j'ai 14, 13 ans, donc je ne m'en rends pas compte. J'aime l'harmonie, donc j'ai été chercher dans l'harmonie. J'aime mettre des citations à la con de très mauvais goût, parce que ça m'éclate et je mords de rire quand je les mets dans la partition, même si les copains me disent oh, « bah, c'est con, tu vois, c'était bien ta musique, mais là, c'est nul ton truc. » là. Je m'en fous. Cette liberté est un truc qui se travaille et dont on a besoin dans l'éducation de réinjecter chez les gens, cette liberté de choix, de te dire, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut travailler dur, parce que travailler dur, ça veut dire que si tu veux être compositeur, il faut écouter énormément de choses. Il y a un siècle, il y avait beaucoup moins de choses à écouter qu'aujourd'hui. Il y a eu le jazz là-dessus. Il y a eu la musique électrique qui est arrivée avec tous les styles dérivés de tous les groupes qui ont monté des musiques depuis 50 ans. Tu rajoutes le rap, tu rajoutes l'électro, tu rajoutes tout. Mais je veux dire, aujourd'hui, pour être musicien ou prof de musique aujourd'hui, il faut être un putain de savant. Excusez-moi l'expression, mais... Et les gens qui me disent, j'ai travaillé la musique, j'écris, je suis compositeur, et je vois qu'ils en jouent trois accords de guitare, je dis, très gentil, vous êtes des gentils, très bien, mais faites de la musique, mais travaillez, apprenez des choses, nourrissez-vous de ce que font les autres. C'est pas, on me dit, non, mais je veux pas me faire influencer. Au contraire, on écoute les autres. Zappa, j'ai découvert beaucoup plus tard. Alors, peut-être que maintenant, on va me dire qu'il y a du Zappa dans ma musique, c'est possible, parce que j'ai dû écouter du Zappa. Mais j'ai écouté énormément de choses. Et je suis, même dans le taxi l'autre jour, je voulais entendre les derniers rappeurs français à la mode. Et le mec, il m'a fait une démonstration des 7 rappeurs français à la mode en ce moment. Et malheureusement, le texte le plus intéressant que j'ai trouvé, c'était « Elle est chouette, ma caisse, tu vas kiffer, ma caisse. Elle est belle, ma caisse, tu vas voir, elle est belle, ma caisse. » C'était ça, le texte. Alors, j'étais mort de rire. Et en même temps... Il y avait un petit leitmotiv qui allait bien, un bel arrangement, une belle production sonore, un peu électro avec un bon tempo, et on est dans le moule, quoi, tu vois. Et les gens sont dans ce moule-là. Et je pense qu'il faut vraiment rééduquer sur... On a le choix, on a accès à toutes les musiques grâce à Internet aujourd'hui, et 80% des gens ne vont plus choisir la musique, ne vont choisir qu'une seule, celle que les médias leur proposent. Et là, j'ai complètement digressé sur la question qui était d'origine.
Oui, mais c'est très bien, c'est ce qu'on aime, les digressions.
Mais voilà, tu vois.
Tu penses donc aujourd'hui que pour revenir au jazz, même si on sait que c'est trop restrictif, mais malgré tout, c'est un petit peu... ton réseau encore un peu.
Bien sûr,
s'il est si maltraité, si on a des difficultés d'exposition, c'est donc parce que ça vient de l'éducation, ça vient d'une...
Bien sûr. Si tu veux, la France n'a pas compris. Je dis la France spécifiquement parce que, bon, je vis dans ce pays, mais je sais pour avoir voyagé qu'ailleurs, ça se passe autrement. La France n'a pas compris que les matières artistiques et le sport sont des choses, dès la maternelle, aussi importante que n'importe quelle matière. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura une population abrutie, qui voudrait ne pas l'être. Mais on ne peut pas, et je ne dis pas qu'il y a un complot, je ne dis pas qu'il y a ça, mais je veux dire, une industrie qui balance de la médiocrité peut faire beaucoup d'argent à condition que cette médiocrité satisfait les gens, parce que ces gens-là n'ont pas à réfléchir, ni à développer leur imaginaire, ni leur curiosité. La pratique artistique, ça fait ça. Ça génère du bien à l'intérieur, ça génère de la réflexion, de la curiosité. Et c'est là où, malheureusement, l'éducation n'a pas compris ça. Les anglo-saxons, les germaniques ont compris ça depuis presque un siècle, et nous, on n'a même pas commencé encore. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de jouer un avenir important dans ce pays. Mais en même temps, tu parlais de jazz, dans le jazz d'aujourd'hui, c'est extrêmement vaste, il y a des millions de projets passionnants. Dans la jeune génération. C'est vrai que je les plains parce que les étiquettes qu'on met en France sont devenues maintenant des étiquettes qui sont dans des cases, quoi, dans les magasins qui vendent les disques. Alors, on supprime aujourd'hui le rayon jazz dans une Fnac ou dans un grand magasin parce qu'il n'y a pas assez de ventes. Mais il n'y a pas assez de ventes, pourquoi ? Parce que les radios ne les diffusent pas assez. Pourquoi les radios ne les diffusent pas assez ? Parce que c'est un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc tu ne peux pas faire plébisciter, faire des campagnes de télévision et de radio avec un produit jazz aujourd'hui, ou un produit de musique de création, comme on le fait avec la variété. On ne peut pas lutter face à une industrie pareille. Je veux dire, et en même temps, plus cette industrie existe, plus il y a des gens qui font des projets fantastiques et magnifiques à côté de ça, parce qu'ils ont la passion. Donc il y aura toujours ça. Je veux dire, tu ne pourras jamais empêcher un mec à prendre une guitare et dire « Tiens, j'ai envie de chercher une sonorité, ça me plaît, ça. » Mais tu auras toujours aussi à côté le gars qui n'a pas envie de chercher et qui, dès qu'il connaîtra deux accords de guitare, il voudra passer à la télévision, faire de l'argent facile et devenir une star.
Dans les jeunes générations dont tu parles un petit peu, là, y a en fait, ici en France, tu es une figure... Tu es une figure importante, on peut le dire très simplement. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à ton travail et qui est comme un guide, je pense, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que toi, à l'inverse, tu t'intéresses aux jeunes? Est-ce qu'il y a, par exemple, quelques trentenaires dans la jeune scène française qui te plaisent? Ouais. Est-ce que tu peux nous conseiller quelques directions?
Alors, directement, je vous aiguille sur un gars qui s'appelle Roberto Negro, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un compositeur, il a des idées. Mmh. Et pas que dans ses albums, ses projets différents, il y a déjà un univers. Mmh. Il a quelque chose. Et dans sa génération, on voit les frères Secaldi, on voit Roberto Negro, Sylvain Darifour. Toute cette génération sont des gens qui ont trouvé un son, qui ont trouvé un style, qui ont trouvé quelque chose. Et même dans l'écriture pour des orchestres un peu plus conséquents.
Est-ce qu'ils vont être plus capables encore que ta génération de faire exploser les étiquettes et de contourner cette difficulté dont tu parles, qui est la difficulté de l'industrie, mais qui finalement, peut-être qu'ils vont s'en affranchir, peut-être
c'est
mieux.
C'est très possible,
ils
le font déjà.
Vous.
Ouais. Parce qu'ils ont créé leur propre festival. Ils ont compris qu'il ne fallait pas compter sur les médias, ni sur une industrie ou une potentielle existence de gens qui s'intéressent à leur travail. Ils ont créé leur propre label, ils ont créé leur festival. Donc voilà, et je veux dire, ce sont des gens très actifs et qui font plein de choses. J'ai écouté récemment un disque le fils d'un ami, Jean-Marie Machado, qui est un compositeur formidable, pianiste aussi, dont je suis le travail depuis très longtemps, puisqu'on était voisins dans le même village, on se connaît depuis 35 ans. Son fils, Joachim, a fait un disque magnifique. J'ai adoré, c'est-à-dire que c'est des gens qui, dans cette jeune génération, ils ont déjà digéré tout ça. C'est-à-dire que nous, on a été sans prétention, on a ouvert quelques portes dans les années 80, parce que justement, on venait à la fois de la culture classique savante, et on venait aussi du jazz, et on venait aussi du rock, et on était un peu les premiers à proposer une musique qui était une première digestion un petit peu de tout ça, un petit peu... résultante un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, cette jeune génération, elle joue tout très bien. Elle sait tout jouer. Mais en plus, elle a digéré tout ce qu'elle sait tout jouer. Mmh. Et elle propose une musique qui propose autre chose. Et qui reste, à mon avis, lisible des oreilles d'un grand public. Comme je crois que la nôtre aussi. Mais l'histoire l'a montré par le passé. Les gens qui ouvrent des portes, en général, on ne s'intéresse pas à eux, on s'intéresse à ceux qui ont traversé ces portes. Parce que justement, ils ont amené un plus. En effet, par rapport à l'industrie, par rapport au marché de la musique, ces jeunes générations vont avoir les mêmes problèmes que nous. C'est évident. Et je pense même plus que nous encore, puisque ces marchés se ferment à un moule de musique médiocre qui ne veut pas autre chose aujourd'hui. Donc je pense en effet qu'ils vont avoir plus de mal que nous encore.
Est-ce que c'est parce que tu as ouvert ces portes et que, d'une certaine façon, tu étais un peu en marge de cette industrie qui est de toute façon moribonde aujourd'hui, mais qui est déjà, dans les années 80, était un peu incertaine pour les gens qui ouvraient des portes comme ça? Est-ce que c'est pour ça que tu as aussi une attention particulière? Il ne se passe pas une année sans que tu fasses... au moins un CD, au moins un DVD, parfois un bouquin. C'est-à-dire, est-ce que c'est relié à ça, cette envie de laisser des traces, de construire une œuvre? C'est quoi ton rapport à l'objet et à, tu vois, et à...
Il y en a deux. T'as raison, hein, tu mets l'accent sur un truc intéressant. Il y a deux choses. Il y a le fait d'être prolifique et de faire des projets, on a envie qu'ils existent. Or, c'est vrai que par rapport à nos industries, qui sont ce qu'elles sont, si on n'a pas d'objet de trace, je veux dire, il est très difficile de commercialiser, entre guillemets, et de faire vendre un projet si on n'a rien à proposer, ni un DVD, ni une image, ni un son. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois aux vertus pédagogiques de la musique. Et je suis persuadé que dans tous nos projets, qui sont très différents les uns des autres, il y a peut-être quelques-uns qui vont tomber dessus. Tu parlais du Ravel tout à l'heure. Réécrire de la musique à la manière de Ravel, pourquoi ? C'était une occasion qui s'était présentée. Mais je veux dire, du coup, on peut peut-être avoir accès à un milieu de la musique classique et des festivals de piano classique, parce que Ravel, ça les intéresse. Et tout d'un coup, si un mec vient jouer de la nouvelle musique, comme si Ravel l'avait composée à l'époque, mais elle n'existe pas, et tout d'un coup, il se met à improviser à la manière d'eux, on va commencer à s'intéresser peut-être à l'improvisateur en disant « Ah, mais c'est bien, dis donc, c'est improvisé, mais comment vous faites ?» Le nombre de fois on m'a dit ça, c'était extraordinaire. Mmh. Non, je crois qu'il y a une envie de faire confiance à un public en général qui peut encore ouvrir ses oreilles. Mmh. Et je pense que nos musiques ne sont pas du tout avant-gardistes, elles n'ont aucune la prétention de créer quoi que ce soit, si ce n'est peut-être cette rencontre entre différents styles et différents musiciens. Mmh. Et que là, à mon avis, par exemple, avec le projet Les Polyphonies Corses, tout d'un coup, les gens qui aiment les Polyphonies Corses ou qui aiment la voix pourraient être intéressés par cette musique. Comme c'est une musique assez lisible et différente de ce que je fais d'habitude, beaucoup moins dissonante ou moderne, ou je ne sais pas comment on peut la classifier, tout d'un coup, peut-être, là, on va se dire, mais tiens, c'est bien ce projet-là, pourquoi on ne le passerait pas là, pourquoi vous ne pourriez pas jouer là, etc. C'est toujours, il y a toujours une vocation pédagogique de se dire, il y a peut-être quelques personnes qu'on peut toucher, et si on peut ouvrir les oreilles de ces personnes-là vont ouvrir les oreilles de leurs enfants, et tout n'est pas perdu, quoi.
Bon, de toute façon, toi, tu es un petit peu irrécupérable, on va dire, ni par l'industrie du disque, ni par les producteurs ou les promoteurs de concerts. Un de tes concepts, c'est ton méga octet. Il y a une fidélité qui est énorme. Cette alchimie humaine, elle part de tes ressorts de créateur, mais aussi de tes ressorts humains. Au final, c'est quelque chose qui est carrément perceptible quand on va voir un concert du méga octet. Cette fraternité, cette énergie qui circule très fort. Et c'est presque... Enfin, je pense que c'est réellement une expérience à vivre. Il faut aller voir le méga octet pour ça aussi.
C'est visuel.
Il y a quelque chose de très visuel, il y a quelque chose de très... c'est probablement le bénéfice des années et cette fidélité dont je parlais, cette patience, cette abnégation pratiquement.
C'est comme ça que tu fédères une équipe. Hein. Je veux dire, en sport, t'as la même chose. Mais je pense que ma pratique pédagogique aussi, la transmission, que ce soit dans les maternelles, les écoles, les conservatoires, a beaucoup joué là-dessus aussi. C'est-à-dire que cette patience dont tu parles, que tu as avec les gens pour qu'ils aient cette espèce de démocratie participative qu'on a quand on répète ensemble, où chacun peut s'exprimer quand il a envie. Je ne suis pas un chef d'orchestre qui arrive en disant « Jouez ça, les gars, c'est de ma musique, tu vois. Et je vous emmerde. J'ai du boulot, vous allez venir. » Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, il y a le rapport humain qui prime d'abord. Mais je suis persuadé que ce côté fédérateur, c'est-à-dire que ta manière d'être ouvert à ce que peuvent dire les autres et dans l'échange et dans la tolérance, avec le charisme, entre guillemets, s'il y en a, qui existe, qui te permet aussi d'imposer des choses sans dureté, sans être un extrémiste, tu vois. Quelqu'un qui réussit à fédérer un groupe, il fait une très belle équipe de foot ou de rugby. Mais quelqu'un qui a les mêmes joueurs talentueux dans l'équipe de rugby qui, pendant 3 ans, ne gagne aucun match, c'est que le gars, il n'a pas le charisme. C'est que le gars, il ne sait pas fédérer une équipe. Tu changes tout d'un coup l'entraîneur et tout d'un coup, les mêmes gens gagnent les matchs. Donc, ça montre qu'il y a une histoire d'un leader qui sait fédérer des gens entre eux et créer un groupe. Et je pense que le temps m'a appris à faire ça. Ma compagne me dit que si ces gens aiment mon travail et qu'ils sont là, c'est aussi parce que je génère cette envie d'être là. Donc, il y a peut-être un petit peu de moi, mais je crois qu'aussi l'histoire a parlé pour nous et cette envie de balancer ce qu'on balance aujourd'hui.
Andy, merci beaucoup de ce moment passé. Pour les Parisiens, on rappelle les dates, c'est le 13 et le 14 au Panpiper.
Panpiper, absolument.
Pour voir Wake Up Call, la création avec Affiletta. Le 14, le méga octet, les 30 ans, avec en invité Nguyen Lee et Géraldine Laurent. Et puis, décédée à venir,
Il y aura un solo au comptoir, qui est un endroit que j'aime bien, qui est à Fontenay-sous-Bois le 22 mai prochain.
Là, tu parles toujours des concerts.
Un solo des concerts et un disque à venir qui s'appelle Nos Solos.
Nos Solos.
Qui est un solo de piano sur lequel j'ai invité des gens à s'exprimer.
Du beau monde aussi, je crois. Balaké Sissoko, Rhoda Scott.
Rhoda Scott, Claude Chabit-Chan.
Géraldine Laurent.
Nguyen Lee est là aussi.
Phil Reptile.
Phil Reptile, et ainsi que Naïssam Jalal et Aida Nosrat qui chantent aussi. Voilà,
c'est du beau monde,
voilà. International et mixte. Voilà, c'est à la mode, mais j'ai pas fait exprès.
Andy, merci beaucoup.
Merci.
pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Thank you.